Voilà, je ne sais pas s'il fait chaud à Manosque, parce que pour nous, avec la dame qui est là, quand on dit qu'il fait beau, c'est qu'on voit le ciel bleu. Donc à Manosque aujourd'hui, il y a le ciel bleu. Voilà. Très heureux d'être avec vous. Toujours émouvant de voir des personnes qui prennent un engagement avec Dieu en se soumettant à la parole de Dieu, au Seigneur lui-même qui a dit de faire des nations des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un engagement devant les hommes, devant l'Église, devant les forces des ténèbres, de faire le choix de remettre sa vie entre les mains de Dieu et de suivre le Seigneur. Alors, pour la plupart d'entre vous, cet après-midi, vous avez un jour pris cet engagement. Pour les autres, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais pour ceux qui ont pris cet engagement, est-ce que vous vous souvenez de ce jour? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit ce jour-là? C'est important. Parce que dans le ciel, la Bible dit qu'il y a dans la bibliothèque de Dieu un livre qui s'appelle le livre du souvenir. Et bon, les choses sont consignées. C'est important. Personnellement, j'ai été baptisé à Aix-en-Provence le 5 février 1961. J'ai rendu mon témoignage ce jour. Et bien des années plus tard, il y avait une brave mamie, qui maintenant est auprès du Seigneur, qui habitait Pertuis, qu'on appelait communément la bijoutière, puisqu'elle tenait un magasin avec son mari de montres, de bijoux, etc., et qui était une amie de la famille. Et quand j'ai été baptisé, son mari avait enregistré sur les magnétophones de l'époque, eh bien, ce qui s'était dit ce jour-là. Les personnes qui étaient là, on était quatre, et puis la prédication. Et donc, c'est bien des années après, j'étais quelques jours sur Pertuis, et elle me dit, ça te ferait plaisir d'entendre ton témoignage. Ben, j'ai dit oui, pourquoi vous l'avez ça? Et du coup, elle a mis le magnétophone. Bon, son mari n'était plus de ce monde. Elle a mis le magnétophone en marche. Elle a mis la bande. Et j'ai entendu ce que j'avais dit. Donc, ça fait 20 ans, disons que, ouais, plus de 30 ans après. Et quand j'ai entendu les quelques paroles que j'avais dites, ça m'a vraiment ému. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais il y avait au moins le fait de dire: Seigneur, je te suivrai toute ma vie. Et ça m'a interpellé parce que je me suis dit: bon, tu n'avais pas vraiment en tête ce que tu avais raconté, mais si le Seigneur l'a consigné dans son livre, il a consigné Alain Denisot à déclarer publiquement qu'il allait me suivre toute sa vie. Et je crois qu'il est important de se souvenir des engagements que l'on a pris, pour qu'avec la grâce de Dieu, eh bien, nous puissions les tenir. Je vous propose juste un texte dans le livre de Job, chapitre 22, verset 21. Il est dit: attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Voilà un formidable trésor qui nous est proposé par le Seigneur. Il est question de paix, il est question de bonheur, il est question de réussite. Et je pense que autant que nous sommes cet après-midi, qui que nous soyons, nous sommes tous candidats au bonheur. Tous candidats à réussir notre vie. Je ne veux pas imaginer que quelqu'un soit masochiste au point de chercher les problèmes, les difficultés, les complications, l'échec. Non, on essaie d'une manière ou d'une autre de réussir, d'arriver et d'avoir une vie eh bien, qui soit satisfaisante. D'ailleurs, nous sommes conçus pour qu'il en soit ainsi. Et tout ce qui n'est pas de cet ordre, eh bien, ce sont tout autant de grains de sable qui viennent comme enrayer la machine complexe eh bien, que nous sommes. Et voici que le Seigneur nous dit « Attache-toi à moi et tu réussiras. Tu auras la paix, tu seras heureux, tu connaîtras le bonheur. » Dieu ne nous demande pas de faire mille et une choses. Il nous demande une seule chose. Attache-toi à Dieu, attache-toi à moi. En fin de compte, l'évangile n'est pas compliqué. Ce n'est pas une série de choses qu'il faudrait faire et de choses qu'il ne faudrait surtout pas faire. Non, l'évangile est simple. Parce que le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc il met une parole qui est à la portée de chacun, du plus petit, du plus grand, du plus, disons, intellectuel, comme du plus simple. Une chose simple. Alors peut-être que c'est un peu trop simple. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et tu jouiras du bonheur. Surtout que, bon, on veut bien le bonheur, on veut bien réussir. Pourquoi pas Dieu, mais s'attacher, se lier, s'engager, ça c'est autre chose. Et puis en plus, s'engager avec Dieu, donc Dieu, la religion. On a tellement entendu dire de choses. Alors on veut conserver une certaine liberté. Et au nom d'une certaine liberté, on ne veut pas se lier, on ne veut pas s'engager. Mais il n'empêche qu'il est dit « attache-toi à Dieu ». Il n'est pas dit autre chose. Et ce que je voudrais dire, c'est que le fait de s'attacher, de se lier, de s'engager, ça c'est inscrit dans notre ADN. C'est inscrit dans notre ADN. Un jour, il y a un homme de renom, grand chef d'entreprise, un PDG d'une multinationale, qui venait de terminer son exposé et les projets de l'entreprise à ses actionnaires, les projets à 5 ans. Et quand il a eu fini d'exposer les projets de l'entreprise, il dit « je touche du bois ». Quand même surprenant qu'un homme de cette qualité puisse avoir ce geste superstitieux de toucher du bois pour que les projets puissent aboutir, que l'entreprise puisse prospérer. Et c'est ce qui nous montre qu'il y a comme un petit quelque chose en nous qui nous amène, dans certaines circonstances, à avoir ce type de comportement, des gestes superstitieux, de s'en remettre à ce que l'on pourrait juger plus efficace, plus fort que soi, de consulter la voyante, d'avoir son petit porte-bonheur dans la poche de son veston, s'en remettre. Voilà. Et ça, c'est l'apparition du péché qui a faussé un petit peu les choses. Et c'est ainsi que ce type de remède, eh bien, ce sont des remèdes qui sont pires que les mots qui peuvent nous atteindre. Et là, il n'est pas dit d'avoir des gestes de superstition, d'avoir un gris-gris quelconque. Non, il est dit « attache-toi à Dieu ». Je pourrais comparer peut-être l'homme au lierre. Tout le monde a vu du lierre. Le lierre, c'est une plante assez spéciale. C'est une plante qui, pour se développer, pour atteindre, disons, sa pleine beauté, son plein épanouissement, il faut qu'elle s'attache, qu'elle s'agrippe, qu'elle se fixe à un élément plus solide, plus rigide qu'elle. Alors, si vous avez un lierre qui se fixe sur un petit muret, en quelques mois, le muret va être recouvert. Si dans la forêt, le lierre se fixe à un tronc d'arbre, en plusieurs mois, quelques années, l'arbre eh bien, va être envahi. Et on trouve même des arbres qui ont été étouffés par le lierre. Par contre, s'il ne trouve pas un élément plus solide, plus rigide, le lierre va ramper sur le sol. Et là, il va être piétiné par les chasseurs, les ramasseurs de champignons, par les bêtes sauvages de la forêt, et on ne va pas le remarquer. Pour qu'on puisse le remarquer, il faut qu'il s'agrippe à un élément plus solide que lui. Eh bien, pour que l'homme s'épanouisse harmonieusement, atteigne sa pleine dimension, ce que le Créateur a voulu dès le départ, lorsque nous avons été formés, tissés dans le sein de notre mère, il faut que nous nous en remettions, que nous nous agrippions, que nous nous fixions à plus solide que nous. Et il ne faut pas se tromper de support. Et c'est la raison pour laquelle il est dit « Attache-toi à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. » S'attacher à Dieu, ça signifie deux choses. Connais Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Et réconcilie-toi avec Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Connais Dieu. C'est important ça. Comment s'attacher à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Comment suivre quelqu'un que l'on ne connaît pas? Bon, je n'ai pas préparé la chose, mais la demoiselle, la réunion terminée là, sur le boulevard, magnifique Audi noire, vitre fumée, s'arrête, la vitre se baisse, il y a un monsieur qui vous dit « Mademoiselle, venez, montez avec moi, on va faire un tour, on monte à Méribel. » Qu'est-ce que vous dites? Non? Et pourquoi? Voilà, elle n'a pas confiance, elle ne connaît pas, elle dit non. Ça, c'est une fille bien. Hein? Je ne connais pas, je ne m'attache pas. C'est normal, c'est naturel. Alors, excusez-moi pour ceux qui étaient là ce matin, mais quand Jésus a dit à la femme samaritaine « Donne-moi à boire », elle a reculé d'un pas, mais qui es-tu? Je ne te connais pas. Comment se fait-il que tu t'adresses à moi qui suis une femme samaritaine? Et puis la conversation se continue, on arrive à la fin. Oui, mais je sais que le Messie, quand il va venir, celui qu'on appelle Christ, eh bien, il nous expliquera tout ça. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Oh. Et d'un coup, elle va chercher tous les gens du village. Venez, le Christ est là. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle ne connaît pas. Elle recule d'un pas, elle dit, mais comment ça se fait que tu m'adresses la parole? Mais dès qu'elle découvre qui il est, elle s'attache et elle a raison. Donc, si je ne connais pas Dieu, c'est à la limite normal que je sois sur la réserve. Donc, il faut que j'apprenne à le connaître. Et comment vais-je le connaître? Il n'y a pas 50 possibilités, il n'y en a qu'une. Par la Bible. Par le livre de Dieu. Dans le monde, il y a des milliards de livres. Il y a des milliers de livres qui parlent de Dieu. Mais il y en a un seul qui est le livre de Dieu, la Bible. Dieu a pris soin de sa parole. Il a veillé sur elle. Les siècles ont passé. Les persécutions ont sévi. Pour l'avoir possédé, pour en avoir possédé une page, un extrait, des gens ont été livrés aux bêtes sauvages, ont été crucifiés, emprisonnés, mis à mort, pourchassés, poursuivis. Encore aujourd'hui, dans certaines parties du monde. N'empêche que le livre, il est là. Il n'y a pas très longtemps, pas 4 ou 5 ans, il y avait une publicité. Pour le prix d'un café, vous pouvez obtenir la Bible. Bon, je vous accorde que tout dépend si vous prenez le café à la gare d'Annecy ou à la gare du Nord à Paris. Hein, ce n'est pas tout à fait le même prix. Mais le problème, il n'est pas là. C'était simplement pour dire, pour une somme modique, vous pouvez avoir une Bible. Ce qui fait la plupart du temps la différence dans le prix de la Bible, c'est la qualité du papier et la qualité de la couverture. Mais le texte, c'est le même. Ce qui nous indique que cette parole, Dieu a pris tellement soin d'elle qu'elle est accessible dans sa totalité ou en portion à plus de, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de 2500 langues ou dialectes. Alors qu'il y a des personnages fameux dans l'histoire des hommes qui ont écrit des textes importants dans leur génération. Et il reste quelques exemplaires ici ou là dans des musées et juste des gens, disons, hyper qualifiés avec des protections pas possibles qui peuvent les consulter alors que la Bible, elle est accessible à tous les hommes. Il y a quelques années, il y a eu à Paris, à l'UNESCO, une exposition, la nouvelle, disons, présentation de l'histoire de la Bible de la Société biblique française. Et il y avait ce grand panneau qui était là. Le ministre de l'époque, c'était, son prénom m'échappe, mais enfin, Mitterrand. Le prénom, c'était Frédéric Mitterrand. Voilà, il a fait un discours. J'ai assisté à cette inauguration. Et la grande banderole à l'UNESCO à Paris, c'était « La Bible, patrimoine de l'humanité ». Ce n'est pas les chrétiens qui ont fait ça. C'était les responsables de l'UNESCO. Il y avait peut-être des chrétiens, mais il y avait des non-chrétiens. Mais il y avait ce fait, la Bible, patrimoine de l'humanité. Et quand je plonge mes regards dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il y a là comme une sorte de miroir, où d'un coup je me découvre. Parce que les hommes et les femmes dont il est question dans ce livre, ce sont des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Ce n'est pas des personnages hors du commun. Ils ont été forts, ils ont été faibles. Ils ont grimpé, ils ont sombré. Mais ils ont tous bénéficié de la grâce de Dieu. Je me découvre. Et je découvre comment ce Dieu qui m'aime me tend la main pour m'arracher, me sortir à mes pièges, à la fange dans laquelle eh bien, je me débats. Je découvre combien il m'a aimé pour pourvoir à mon pardon. Alors je vais prendre juste une image. Tout le monde a plus ou moins entendu parler de Moïse. Tout le monde a plus ou moins vu, une fois au moins dans sa vie, le fameux film « Les 10 commandements ». Bon, il y a des petits arrangements par rapport au texte, mais grosso modo, c'est le reflet de l'histoire que nous trouvons dans la Bible. Moïse. Moïse est né en Égypte, dans une période assez compliquée. Une période où une maman hébreu lorsqu'elle accouchait et qu'elle accouchait d'un garçon, devait déclarer son garçon à l'autorité militaire. Et les soldats venaient, prenaient l'enfant et l'exécutaient. Quand la maman de Moïse a accouché de son garçon, on comprend qu'elle ne l'a pas déclaré. Elle l'a caché. Mais à un moment donné, il n'était plus possible de le tenir caché. Donc elle a exercé la foi. Elle a fait une sorte d'embarcation. Elle a placé le bébé dedans et elle a mis l'embarcation sur le fleuve. Et le courant a emporté cette embarcation. Et sur la rive, il y avait la sœur aînée de Moïse, Marie, qui suivait pour voir ce qui allait advenir. Est-ce que l'embarcation allait chavirer et l'enfant se noyait? Est-ce qu'un crocodile allait manger l'enfant? Est-ce qu'un hippopotame allait dévorer l'enfant? Au bout du compte, le courant a amené cette embarcation auprès d'un groupe de femmes qui étaient en train de se baigner. Et parmi ces femmes, il y avait une princesse égyptienne. Et cette princesse, quand elle a vu le bébé, elle a été émue. Et Marie, qui était une fille bien, comme la jeune fille de tout à l'heure, elle s'est précipitée, elle lui a dit, « Tu veux pas que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux ?» Et la princesse a dit, « Bah oui. » Et c'est comme ça que, au nez et à la barbe des Égyptiens, la maman de Moïse a élevé son propre enfant. C'est beau ça. Et Moïse a reçu l'éducation égyptienne, qui était à l'époque une civilisation florissante. Mais sur les genoux de sa maman, il a appris l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tout ça, c'est un mélange un peu compliqué. Puis un jour, il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu. Alors il est intervenu, et puis dans cette intervention, l'Égyptien est mort. Alors on l'a enterré, on a caché le cadavre. Puis le lendemain, c'est deux Hébreux qui se chamaillent. Et Moïse, il intervient. Et les deux lui disent, mais attends, tu te prends pour qui toi? Tu penses que tu vas faire avec nous comme tu as fait hier avec l'Égyptien? Et Moïse a compris qu'il y avait péril en la demeure. Alors il est parti. Il a quitté l'Égypte et il est parti dans le désert. Puis là, il a rencontré les Bédouins de l'époque, les nomades. Il s'est marié, il est devenu père de famille, il a eu des troupeaux, ces troupeaux ont prospéré. Quand il est parti, il avait 40 ans. Et puis, 40 ans s'écoulent. Il a 80 ans. L'Égypte, c'est loin. Les problèmes des Hébreux en Égypte, c'est plus tout à fait son problème à lui. Il a quelques souvenirs, mais c'est un peu le brouillard. Et puis un beau jour, il y a un buisson qui prend feu soudainement. Bon, ça arrivait. Et dans le désert, quand vous allez dans ces régions, vous avez des espèces de buissons là. Ils sèchent, le vent les roule, puis peut arriver qu'ils s'enflamment, ça dure 2 secondes. Mais le buisson brûle et il ne se consume pas. Et la Bible me dit que Moïse a été intrigué. Alors il s'est approché pour essayer de comprendre ce phénomène. Et quand il est arrivé là, auprès du buisson, une voix s'est fait entendre. « Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. j'ai entendu ces cris, ces gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Et là, Moïse a eu la révélation de Dieu. Il n'a plus été le même. Il a été totalement changé, totalement bouleversé. Il est devenu un homme de foi. Il est devenu un leader. Il est devenu un libérateur. Et il a pris son bâton et il est allé affronter le Pharaon pour que Pharaon libère le peuple hébreu. Et Pharaon a libéré le peuple hébreu. Bon, ça n'a pas été très facile, mais il l'a fait. Et pendant 40 ans, Moïse, à la tête du peuple, a conduit ce peuple jusqu'aux portes du pays promis. Et quand le peuple est entré dans le pays, Moïse avait 120 ans. Et la Bible nous dit qu'il avait bon pied et bon œil. Tout ça dans cette rencontre. Alors permettez, s'il vous plaît, le parallèle. Des milliers de buissons dans le désert. Il n'y en a qu'un qui brûle et qui ne se consume pas. Je l'ai dit, des milliards de livres dans le monde. Des milliers de livres qui parlent de Dieu. Mais un seul, qui est le livre de Dieu. Et au travers de ce livre, Dieu se révèle. Et il fait que, lorsque nous le découvrons, ils ne sont plus pareils. Ils ne sont plus les mêmes. Il y a un changement intérieur qui n'est pas le produit d'une discipline de vie, d'une maîtrise de soi au départ, mais qui est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Je nais à la vie de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, pour nous c'est pareil. La première manifestation de la présence de Dieu, c'est le fait que Dieu est saint et que moi je suis un pécheur. Ôte les souliers de tes pieds. Ça c'est la première chose. C'est le premier sentiment que nous éprouvons lorsque Dieu se révèle à nous. Oui, mais monsieur, je suis un pécheur, il ne faut pas exagérer quand même. J'ai pas fait de gros péchés. D'accord ? Mais tu admets que tu en as fait des petits. Et le problème n'est pas dans la quantité, ni dans la grosseur. Le problème, il est que nous sommes pécheurs. Et que par ce fait, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes du mauvais côté de la barrière. Et j'ai besoin que mes péchés, mon péché, soient pardonnés. Quand j'étais pasteur à Béziers, il y a une femme, elle me disait souvent, c'était son tiercé, « Mais monsieur, pourquoi vous parlez du péché ? J'ai ni tué, ni volé, ni fait le trottoir. » Je ne sais pas combien de fois elle m'a répété ça. Mais on peut être pécheur et perdu sans avoir fait tout ça. La Bible dit que si on a désobéi à un seul commandement, c'est comme si on avait désobéi à tous. Et il faut que j'admette que je suis un pécheur. Si je me compare à l'autre, bon, entre nous, on arrive à trouver un terrain d'entente. Bon, écoute, t'es pas parfait, moi non plus, bon, voilà. Mais le problème, c'est que je ne me compare pas à l'autre. C'est vis-à-vis de la balance divine, de la toise divine. Et comme il a été dit à un roi, quand il a été pesé, tu as été trouvé léger. Sur le plan humain, c'était un homme redoutable. Il avait droit de vie et de mort sur tous ses sujets. Mais dans la balance de Dieu, il lui sera dit, tu as été trouvé léger. Entre nous, on s'accommode de nos imperfections. Et le problème n'est pas de s'arranger entre nous, c'est vis-à-vis de celui qui est l'étalon, le repère, la pierre de touche. Il est saint, je suis pécheur. Et ça, c'est la première chose que nous devons admettre. La deuxième, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Abraham, le père des croyants. L'homme de la foi par, d'une façon remarquable. Espérant contre toute espérance. Mais Abraham, il est mort. Il n'est plus là. Isaac, un patriarche remarquable. Mais il n'est plus là non plus. Jacob, un patriarche fameux. Mais il est mort, il n'est plus là non plus. Et Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, qui n'est plus, d'Isaac, qui n'est plus, de Jacob, qui n'est plus, mais moi je suis toujours là. Et il peut dire à Moïse, comme j'ai été le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je voudrais, Moïse, devenir ton Dieu à toi. Mes chers amis, c'est ce que le Seigneur vous dit cet après-midi. Je voudrais devenir ton Dieu, ton Père. Je voudrais que Jésus, mon Fils, soit ton Sauveur. Et il s'adresse à chacun et à certains plus précisément. Ensuite, il y a trois choses. J'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Dieu, ce n'est pas une idée, aussi belle soit-elle. Dieu, ce n'est pas une image, ce n'est pas un tableau, ce n'est pas une statuette. Dieu, c'est un être vivant, un être sensible, un être qui voit, qui entend et qui parle et qui agit. J'ai vu les souffrances de mon peuple. Moïse, il ne voyait plus rien. 40 ans s'étaient écoulés. Les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Il a repassé un petit peu ce qu'il avait vécu en Égypte. Il a peut-être eu des nouvelles, des échos. Mais 40 ans après, je veux dire, ça fait un peu loin tout ça. Puis il n'a pas dû trop se manifester non plus. De peur que les renseignements généraux d'Égypte le retrouvent et mettent la main dessus. Donc Moïse ne voyait plus rien. Mais Dieu lui voyait. Parce que Dieu voit. Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit que Dieu voit dans la nuit noire, sur une pierre noire, la fourmi noire. C'est remarquable ça, hein? Il est plus fort que l'aigle. On sait que l'aigle, il voit à des kilomètres la petite souris, le petit mulot qui sort. C'est normal. C'est Dieu qui a créé l'aigle, c'est pas l'inverse. Ceci pour dire que rien ne peut échapper au regard du Seigneur. Le psalmiste dira, où fuirai-je loin de ta face? Où que j'aille, t'es déjà arrivé. Comment puis-je échapper à ton regard? Si je descends, tu y es. Si je monte, tu y es. Si je vais à droite, tu y es. Si je vais à gauche, tu y es encore. Comment je peux faire? C'est pas possible. Alors, Dieu, il voit des tas de choses. Hein? Des belles et des moins belles. Il voit des actes héroïques et il voit des choses horribles. Il a vu ce matin son peuple se rassembler dans ce lieu pour lui apporter un culte raisonnable. Et il a vu bien d'autres lieux, des hommes et des femmes qui se sont rassemblés, qui ont rendu un culte raisonnable. Et puis il a vu certainement d'autres rassemblements moins glorieux, plus horribles. Il a tout vu, le bon et le moins bon, et le franchement mauvais. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de plus précis. La Bible nous dit que le Seigneur porte son regard sur chacun. Et il est dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui est abattu. Et y aurait-il quelqu'un cet après-midi qui soit dans la souffrance, qui soit abattu, qui se sente comme blessé, diminué, rejeté? Eh bien, sachez que vous êtes l'objet de l'attention du Seigneur. Vous êtes l'objet de son amour. Vous avez de l'intérêt à ses yeux. Et pour être dans la souffrance ou dans l'abattement, il n'y a pas d'âge. Il y a peut-être la mamie. On a oublié son anniversaire. On a oublié de lui présenter les vœux, de lui faire un cadeau. Ses enfants sont pris par autre chose, les petits-enfants aussi. Elle est toute seule et il y a des périodes de l'année où elle est abattue parce qu'elle est seule. Un jour, dans une réunion, à la fin, quand le pasteur a invité ceux qui souhaitaient que l'on prie pour eux s'approche, il y a un petit garçon qui est venu. Il devait avoir 8 ou 9 ans. Moi, quand les gens s'approchent, je ne leur demande jamais pourquoi ils s'approchent. Mais à ce petit garçon, il était tout seul, il n'y avait pas d'adulte pour l'accompagner. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit, monsieur, mon papa et ma maman vont divorcer et je suis malheureux. Ben oui. Oh, j'imagine que le papa et la maman avaient dû expliquer avec leurs mots qu'ils ne s'aimaient plus, qu'ils allaient se séparer, etc. Et le petit garçon, lui, il avait très bien compris que ça ne serait plus du tout comme avant. Et il était malheureux. Je ne sais pas quelle est votre souffrance, la raison peut-être de votre abattement, mais j'aimerais vous dire que le regard du Seigneur est sur vous. Et ça, c'est important. J'ai vu. Il voit. J'ai entendu. Eh oui, il a l'oreille fine. Il entend. Et là, c'est pareil. Il entend tout ce qui se dit sur la terre. Et il a entendu les louanges de son peuple ce matin. Il a entendu le témoignage des amis tout à l'heure. Mais il peut entendre des choses horribles ici ou là dans certains rassemblements dans le monde. Il entend. Mais il est capable d'entendre ta prière. La Bible dit, et là je reviens à quelque chose de plus pointu, quand un malheureux crie, Dieu l'entend. Et il est capable d'entendre ta prière. Peut-être que tu n'as pas la force de crier. Quand je lis dans le livre des psaumes, je vois dans certaines situations David qui dit « Éternel, c'est à toi que je crie !» Mais parfois, on n'a pas la force de crier. Mais Dieu est capable d'entendre. Il y a une femme qui s'appelle Anne. Elle n'avait pas la force de crier. Elle était humiliée par sa rivale, et même si son mari essayait de la choyer un peu plus, ce n'était pas suffisant. Et elle était à la fête, à Silo, et elle était prostrée dans un coin là. Au point que l'homme de Dieu, en passant, a cru qu'elle était ivre, et il lui a donné une parole un petit peu, disons, difficile. Et la femme dira non. Non, je suis pas ivre. C'est ma souffrance. C'est ma douleur. Et l'homme de Dieu lui dira, eh bien écoute, que ta prière soit exaucée. Et il est dit que Dieu se souvint de Anne. Elle tomba enceinte, elle donna jour à un garçon qu'elle nomma Samuel, qui est devenu le fameux prophète Samuel, qui a marqué l'histoire d'Israël. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer là? Personne n'a entendu sa prière. Comment ça s'est passé pour que Dieu l'exauce? Il y avait juste ses lèvres qui bougeaient, dit l'Écriture. C'est pour ça que l'homme de Dieu a cru qu'elle avait trop bu. Et pourtant, Dieu a exaucé sa prière. Dieu s'est souvenu. Ben, vous savez, il y a un texte dans l'Écriture qui dit « Il a penché son oreille vers moi ». À un moment donné, Dieu est capable de poser son oreille sur nos lèvres et de recueillir notre prière et de l'exaucer. Alors, bon, quelqu'un va me dire, oui, mais ok, j'ai compris, mais moi, je ne sais pas prier. Ça, ce n'est pas vrai. Franchement, hein. Tout le monde sait prier. D'ailleurs, tout le monde prie tous les jours. Non, non, monsieur, moi, non. Si, si, si. Mais le pasteur d'Annecy pourra vous faire une étude sur la prière avec un grand P, parce que ça regroupe différentes facettes, mais la prière, c'est la demande. Le fameux Notre Père, c'est une série de demandes. La base même de la prière, c'est de demander. Et tous les jours, nous sommes à même de demander. Vous allez chez la boulangère, vous dites « Bonjour madame, je voudrais une flûte ». Vous avez fait une prière. Vous avez fait une demande. Et la boulangère, elle vous donne la flûte. Bon, d'accord, vous allez mettre quelques euros. Alors qu'avec Dieu, c'est gratuit. Mais demander avec des mots simples, ordinaires, avec nos mots, mais tout le monde est capable de faire. Or, peut-être quelqu'un va me dire, « Oui, mais vous savez, un jour, je suis venu dans cette église, et il y a la dame là-bas au fond, je l'ai entendue prier, mais monsieur, jamais j'arriverai à prier comme elle. Mais surtout, ne le faites jamais. Priez jamais comme elle. On n'est pas là pour imiter l'un ou l'autre. Priez, demandez. C'est employer ses mots, son langage. Peut-être que ça va être maladroit, mais ce n'est pas grave. C'est moi. C'est ma personne. Je pense à quelque chose, là. Ouais, j'ai le temps. Un jour, il y a, dans une de nos églises, un homme, un membre de l'église, qui voulait inviter un de ses amis, qui était un intellectuel de grand renom, à l'église. Mais bon, il avait peut-être jugé que le pasteur, il n'était pas d'un niveau qui pourrait permettre eh bien, d'éblouir cet intellectuel. Puis un jour, il y a un visiteur qui a été invité. Et là, il s'est dit, « Waouh, celui-là, c'est un orateur, je vais inviter mon ami parce que là, waouh, il va comprendre. » Et il a invité son ami. Et l'ami est venu. Et il a entendu le prédicateur. Il était venu à un culte le matin. Et puis le chrétien, là, il était tout frétillant, tout excité. Waouh, c'était super ce qui avait été dit. Il s'est dit, là, mon ami, waouh, il en aura pris plein la tête. Et puis en sortant, il lui dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Et il lui dit, Dieu est vraiment dans cette église. Oh, il était tout content. Il dit, alors, le prédicateur, du nom, je n'ai pas vraiment retenu ce qu'il a dit. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qui t'amène à dire que Dieu, il est vraiment là? Il dit, j'ai entendu une prière. Je me suis retourné et j'ai repéré la dame qui priait. C'est celle à qui j'achète tous les matins mes légumes sur le marché. C'est une femme ordinaire. Et quand j'ai entendu sa prière, j'ai dit, cette femme, si elle prie avec une telle simplicité et une telle ferveur, c'est qu'elle a rencontré Dieu. Eh oui. Le problème, c'est de parler avec ses mots, son langage. Ça ne ressemblera pas à celui-ci, à celle-là, mais le problème, il n'est pas là. Donc, nous sommes tous capables de faire une demande. Dis-moi, quelle est ta demande? Quelle est ta prière? Quand l'aveugle Bartimée a su que Jésus était là, il s'est levé d'un bond et il a crié « Pitié de moi ». Les gens lui ont dit de se calmer, il a crié encore plus fort et Jésus a dit « Appelez-moi cet homme ». Et quand il a été devant Jésus, Jésus lui a dit une seule chose, « Que veux-tu que je te fasse. Eh bien, le Seigneur te dit une seule chose. Que veux-tu que je te fasse? Il ne te demande pas de lui raconter ta vie, de lui raconter la vie de ton ami, de lui raconter je ne sais pas quoi. Il te dit simplement, tu as besoin de quoi? L'homme était infirme depuis sa naissance, aveugle, et il dira que je recouvre la vue. Eh bien, qu'il soit fait selon ta foi. Et ses yeux se sont ouverts. Jésus te dit, que veux-tu que je te fasse? Quel est ton besoin? Quelle est ta demande? En trois mots, tu peux le lui dire simplement. Et il est celui qui va entendre. Et le troisième volet, c'est « Et je suis descendu ». Dieu n'est pas simplement là-haut, perché au-dessus des nuages, en train de faire différents constats. Non, il est venu sur la terre des hommes. Et c'est ainsi que Jésus est né de la Vierge Marie, dans l'humble étable de Bethléem. Et il est venu sur la terre des hommes, comme un homme. La Bible dit comme un simple homme, comme un vrai homme. Il a vécu la condition d'un homme, d'un être humain sur la terre. Il a été soumis à la tentation et il n'a pas succombé à cette tentation. C'est la raison pour laquelle il est dit qu'il peut nous comprendre et qu'il peut nous aider à surmonter, à triompher de la tentation. Et il nous a aimés au point de livrer sa vie sur la croix, de se donner en rançon pour nous, de payer notre dette, ce péché dont nous parlions tout à l'heure, dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser, que nos œuvres, nos mérites, etc., ne peuvent pas éliminer. Lui, il a payé la dette. Que dit la Bible? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi un salaire? C'est quoi un salaire? Vous êtes embauché dans une entreprise, vous signez un contrat, vous avez un CDI, et on va vous dire, voilà, vous toucherez 2000 euros par mois. C'est votre salaire. Faites le nombre d'heures qu'il faut, et à la fin du mois, le comptable vous fait un chèque de 2000 euros. C'est votre salaire. C'est votre dû. Par contre, si le patron arrive à la fin du mois et vous dit, voilà, je suis dans un jour faste, mon cœur est plein de bonté, je vous fais cadeau de 2000 euros. Vous allez dire, monsieur, c'est gentil, mais c'est pas un cadeau, ça. C'est mon dû. C'est ce pourquoi j'ai travaillé. Ça n'a rien à voir avec votre générosité. C'est dans le contrat. Comprenez bien. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est mon dû. C'est dans le contrat. On peut toujours chanter « Nous irons tous au paradis », mais ça, c'est de la blague. Ça ne tient pas. Ça voudrait dire que je fais ce que je veux, je me laisse porter par mes sens, mon tempérament, ma nature, puis au bout du compte, tout ça, ça ne compte pas, et je vais quand même dans le ciel. J'ai pas envie d'y aller, mais j'y serai de force. Non, ça c'est... C'est de la poésie, ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Il ne peut pas en être autrement. Et s'il en était autrement sans qu'il y ait une intervention quelconque, c'est une injustice. On est d'accord? Réfléchissez bien. Par contre, il est ajouté le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si votre patron vous donne 2000 euros, c'est votre salaire, mais qu'il dit, voilà, l'entreprise, ça a marché, on a fait des affaires, etc., et vous avez une prime de 2000 euros supplémentaires. Merci, monsieur. Ça, c'est un cadeau. C'est la prime. Le don gratuit, le cadeau de Dieu, ce qui n'est pas mérité, mais qui nous est accordé à cause de l'amour, c'est la vie éternelle. Et pour ce faire, Christ est mort sur la croix. Et le salaire que je devrais recevoir, c'est lui qui l'a pris. Le châtiment qui me donne à moi la paix est tombé sur lui. Ma dette est payée. Mon compte est réglé. Et ma part, c'est simplement de croire que je suis plus en dette avec Dieu parce que quelqu'un a réglé ma dette à ma place. Et j'entre dans cette sphère de paix, d'espérance. Je suis descendu pour cela et Jésus est descendu pour te sauver. Alors je vais vous faire sourire. Je vous ai dit que j'étais baptisé le 5 février 61, mais j'ai donné ma vie à Dieu, je suis né en quelque sorte à la vie de Dieu le samedi 19 novembre 1960 à 22h. Parce que ce soir-là, il y avait un jeune prédicateur qui était de passage, qui est décédé maintenant, c'était Jacques Verneau. Jeune missionnaire, il s'était arrêté à Aix-en-Provence et il partait rejoindre son père qui était missionnaire au Gabon. Et ce soir-là, ma mère avait réussi à m'amener. Je n'étais pas un voyou, mais j'étais un garçon d'une grande insolence, très moqueur. J'ai fait pleurer ma mère je ne sais pas combien de fois, puisque j'avais 14 ans quand, avec mon père, ils ont rencontré le Seigneur, ils sont allés à l'église, donc elle m'amenait de temps en temps, mais alors c'était vraiment un poème pour m'amener. Et quand elle avait réussi à m'amener, c'était un poème pour que je me tienne tranquille au fond avec deux ou trois autres. Et ce soir-là, Jacques Verneau a prêché, il a parlé sur Bartimée justement. Je ne sais pas trop ce qu'il a raconté sur Bartimée, mais ce que je sais à la fin, c'est qu'il a dit ceci. Bartimée était là, au bord du chemin. Il entend du bruit, il ne sait pas ce qui se passe. Il demande de quoi il s'agit. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et là, d'un bond, il se lève. Et il demande à Jésus d'avoir pitié de lui. Et malgré qu'on lui dise de ne pas bouger, de se calmer, il crie plus fort. Il se débarrasse de son manteau et il dit, aie pitié de moi. Et il a dit ceci. Jésus allait venir. Quand Jésus a été comme à sa hauteur, il lui a demandé de l'aide. Si Bartimée n'avait pas bougé, Jésus aurait continué son chemin. Et peut-être ne l'aurait-il plus jamais rencontré. Et ça m'a interpellé. Et je me suis dit, si ce soir, tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu es fichu, toujours. Et ce soir-là, vers 22h, quand le pasteur a fait l'appel en disant qui veut donner sa vie à Dieu, j'ai levé ma main et j'ai donné ma vie à Dieu. La première manifestation tangible de ce changement, c'est le lendemain. Parce que dans le petit immeuble où on habitait, il y avait deux étages à la sortie d'Aix-en-Provence et dans les 6 familles qui vivaient là, en dehors de mes parents, il y avait 2 autres familles qui fréquentaient l'église. Et c'est ces familles qui avaient amené mes parents à l'église. Et ces gens-là, je ne pouvais pas les supporter. Mais je n'étais pas méchant avec. J'étais insolent. Ces gens-là, pour moi, n'existaient pas. Je ne les voyais pas, je ne les entendais pas, je ne les sentais pas. Et combien de fois je les ai croisés dans la cage d'escalier, là, sur les 2 étages. Ni bonjour, ni rien du tout, je faisais mon chemin pour moi. Voilà. Je rentrais de l'école, je voyais les 2 dames avec ma mère qui, des fois, priaient ensemble, lisaient la Bible. J'arrivais, bonjour maman, les 2 autres, rien. Je les ignorais, mais alors complètement. Le samedi, j'ai donné ma vie à Dieu, le dimanche matin, j'étais au culte. Et je vois les 2 femmes. J'arrive, bonjour. Ça leur a fait un choc. Elles sont allées voir ma mère et elles ont dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé chez Alain? Tu te rends compte? Il nous a dit bonjour. Ben oui, j'avais pas calculé mon coup. j'étais brutalement devenu poli, du moins vis-à-vis d'elle. Voilà, c'était un des premiers éléments. Chers amis, c'est important. Il y a un moment où on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, où on s'engage. Bon, j'avais 17 ans quand j'ai reçu l'appel pour servir Dieu. 17 ans, j'ai rencontré ma femme. 21 ans, on s'est marié. 21 ans et demi, j'ai eu l'occasion de rentrer en formation pastorale. Et mon pasteur m'a dit, pour ce faire, il faut que dans un mois, tu sois à Casablanca. Et 3 semaines après, j'étais à Casablanca, le 17 mai 1966. Et j'ai commencé mon parcours pour arriver cet après-midi avec vous. Tout à l'heure, je prends l'avion, je pars pour Bordeaux. Voilà, tant qu'on peut, on travaille. Chers amis, c'est un moment solennel. Il est descendu pour te sauver, toi. Et le dernier point, très rapidement, j'ai dit, réconcilie-toi avec Dieu. Faire la paix. L'homme de Dieu dit, tant que je me suis tu, je gémissais toute la journée. Mes os se consumaient et ma vigueur était semblable à la sécheresse de l'été. Tant que je me suis tu, tant que je t'ai tourné le dos, tant que je me suis replié sur moi-même, rien n'a marché. Il était complètement déglingué sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Tant que je me suis tu, alors j'ai dit, j'avouerai mes transgressions et tu as effacé la peine de mon péché. Tant que nous allons tourner le dos à Dieu, rien ne va fonctionner comme il faut. Il y aura toujours quelque chose qui va aller mal. Tant que je me replie sur moi-même, rien ne va aller. Tant que je m'engage avec je ne sais qui, avec je ne sais quoi, non. À un moment donné, je m'arrête et je dis, voilà, ben j'admets, je reconnais, j'avoue que je suis un pécheur. Seigneur, veuille s'il te plaît me pardonner. Je confesse que je suis un pécheur. Je veux saisir ta main. J'ai dit, j'avouerai, je reconnaîtrai. Et tu as effacé. Et à partir de là, tout a changé. Et c'est ce que ces bien-aimés ont fait. Ils n'ont pas été sauvés à partir du moment où ils sont sortis de l'eau. C'est parce qu'ils ont fait cette expérience avec Dieu qu'ils se sont engagés. Parce que le baptême, c'est un petit peu comme l'anneau, là. Cet anneau, c'est pas grand-chose. C'est un symbole. On l'a échangé, je l'ai échangé il y a 52 ans maintenant. Mais c'est le résultat de l'amour. On ne tombe pas amoureux le jour où on échange l'anneau. Ben, j'espère, hein. Encore que j'en ai trouvé, hein. Je me marie, tu l'aimes? Non, non, mais ça viendra. Alors déjà, quand il y en a qui disent oui et que ce n'est pas venu, alors, le mariage, ce n'est pas la loterie, hein. Mais je m'engage avec Dieu parce que j'ai compris qu'il m'aimait, je me suis mis à l'aimer, et maintenant je m'unis à lui, et on va progresser ensemble. Et pour vous, c'est cet après-midi. On courbe nos fronts, attache-toi à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras du bonheur. Connais Dieu, tu auras la paix, tu jouiras du bonheur. Réconcilie-toi avec Dieu, tu auras la paix, et tu jouiras du bonheur. Prions, s'il vous plaît.